vous suit.
Voici les titres du journal.
La gare de Saint-Maurice entame une mue considérable. Des projets sont dans le pipeline pour en faire une gare vivante proposant des activités variées, mais pas que. On vous en parle dans un instant avec Yves Terrani. L'association des sections de Samaritains du Valais-Roman a présenté sa stratégie 2024 hier. La SSVR aimerait enrôler plus de jeunes et combler les départs survenus lors de la crise sanitaire. Il manque en Suisse romande des pompiers volontaires en journée. Quatre cantons romands proposent une charte afin de saluer les employeurs qui engagent des soldats du feu miliciens. En tennis, il n'y a plus qu'une seule Suissesse engagée à l'US Open. Chez les hommes, Marc-Andrea Hüsler a aussi pris la porte. Et à Lausanne, Ekissima aura dû attendre 3 ans pour retrouver sa place dans le calendrier.
Du soleil pour la météo, du soleil en plaine. Par contre, en montagne, ce sera un petit peu plus bouché pour demain. Un temps ensoleillé nous est annoncé par Météo Suisse. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Thierry Nicolet. Bonjour Thierry.
Bonjour Axel, bonjour à tous. La gare de Saint-Maurice change de visage. L'office du tourisme local vient de s'y installer, alors que le kiosque qui se trouve à la hauteur du quai numéro 1 va être déplacé. Et ce ne sont là que les premières nouveautés, c'est en tout cas ce que vous êtes venu nous dire Yves Terrani.
Oui, ça va bouger, en prenant l'ordre. Des travaux viennent de démarrer au réinférieur de ce qui était anciennement le buffet de la gare. C'est là que le futur kiosque trouvera place. L'ouverture de ce commerce est prévue courant 2023, nous a-t-on dit, du côté des CFF.
Restons dans le même bâtiment Yves, pour évoquer justement l'ancien buffet.
Et pour vous dire que les CFF exploitent actuellement différentes pistes afin de trouver une affectation à ces surfaces inexploitées depuis de nombreuses années, porte-parole des CFF Sabine Baumgartner nous a confirmé ce matin que l'idée d'un restaurant est notamment explorée dans le cadre de la recherche entreprise.
On se déplace dans le corps principal de la gare Yves.
Oui, où l'office du tourisme local a pris ses quartiers depuis ce dernier lundi, l'office du tourisme qui s'est installé là où se trouvaient précédemment les guichets des CFF.
Et on reste dans le même bâtiment.
Où des espaces de coworking vont être créé, a-t-on appris, à côté de l'office du tourisme, d'une part et dans une partie de l'étage supérieur, d'autre part, là où se trouvaient précédemment les appartements du chef de gare. Là, des bureaux sont déjà occupés, des travaux d'aménagement pour les différents espaces de coworking doivent être entrepris. Selon les CFF, ils devraient être achevés d'ici l'hiver.
Maintenant, Yves, l'idée, c'est d'aller globalement encore plus loin avec l'ensemble des bâtiments de la gare.
Exactement. Porte-parole lui aussi des CFF, Frédéric Reva nous a confié que ces derniers souhaitaient créer un hub régional dans cette gare, d'en faire précisément un endroit, je cite, vivant et où sont proposées des activités variées. Des discussions sont en cours à ce sujet avec les autorités cantonales, nous a-t-il dit.
Et que disent ces dernières ?
Eh bien, elle confirme. Il est vrai que la surface est énorme et que le bâti existant était en perdition. Ces mots sont ceux d'Éric Duc, chef de la section planification et gestion des infrastructures au service valaisan de la mobilité. On a commencé tout petit, maintenant on avance en essayant de donner des impulsions, nous a-t-il expliqué. Éric Duc ne cache pas que l'idée, c'est d'ouvrir des portes avec des partenaires parce que cette plateforme agonoise est centrale et importante, que ce soit en termes de transport public et de mobilité douce, mais pas que. Du coup, ça discute pas mal entre le canton, les CFF, la commune et même Arma Suisse, qui disposent de bâtiments dans le secteur.
La commune, justement, Yves, on imagine qu'elle est enchantée.
Bien sûr, on veut avancer, on pousse, nous a confié tout à l'heure son président Xavier Lavanchy, qui dit constater avec bonheur que les affaires prennent une tournure différente, ne serait-ce qu'en matière d'animation future du quartier. Xavier Lavanchy ne cache pas au demeurant que les autorités agonoises aimeraient bien voir la future HEP, la haute école pédagogique du Valais, trouver place sur la plateforme de la gare, alors que d'autres idées sont dans l'air dans le secteur des bâtiments militaires tout proche. Et on laissera la conclusion à Vincent Pellissier, chef du service de la mobilité du canton du Valais. Il ne faut surtout pas oublier que la gare de Saint-Maurice sera l'extrémité du futur réseau ferroviaire du Sud-Léman, nous a-t-il glissé malicieusement. Tout est dit.
Merci beaucoup Yves Terrani.
L'association des sections de Samaritains du Valais-Roman fait des yeux doux à la jeunesse.
La SSVR a dévoilé hier à Sion sa nouvelle stratégie 2024. Elle accuse de nombreux départs dans ses rangs depuis la crise sanitaire et souhaite les combler. L'association cible notamment un public jeune. Dès cette année, les élèves valaisans du cycle d'orientation suivront des cours de Samaritains à l'occasion d'un projet pilote mené avec le canton. Parallèlement, une commission jeunesse a été créée. Yvan Besse, président de l'association des sections de Samaritains du Valais-Roman.
On a donné un nouveau dynamisme à cette commission jeunesse cantonale qui est maintenant constituée essentiellement de jeunes d'une vingtaine d'années et puis qui réfléchissent aux besoins et aux intérêts des jeunes et puis qui vont proposer toutes ces améliorations et puis développer le mouvement au niveau du Valais-Roman. Ce nouveau dynamisme, il a déjà commencé cet été par une journée HELP, c'est donc une journée cantonale pour les jeunes et puis ça a permis à toute cette jeunesse qui représente plus de 110 jeunes de se réunir et de se fédérer autour de cette journée. C'est eux l'avenir de notre mouvement.
Des propos recueillis par Guillaume Abbé, la SSVR a uniformisé les tenues des 25 sections locales ainsi que les sacs de secours. Ceci doit faciliter les interventions et favoriser les collaborations. Sachez encore que l'association a lancé aujourd'hui un appel aux dons et qu'elle tiendra un stand de promotion à la Foire du Valais à Martigny.
Il manque des pompiers volontaires en journée.
Le constat est le même dans tous les cantons romands. C'est pourquoi Vaud, Fribourg, Neuchâtel et Le Jura se sont associés afin de proposer une charte employeur. Elle a pour but de mettre en valeur les entreprises qui ne craignent pas d'engager des soldats du feu miliciens, tout en communiquant auprès de ces boîtes que les absences de l'employé en question ne sont pas quotidiennes, mais plutôt d'une fois par semaine, voire toutes les deux semaines. De plus, avec le Valais, ces cantons s'unissent afin de proposer un recrutement le premier jeudi du mois de novembre, mais pas uniquement. Thierry Charret, président de la Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers.
Le recrutement cantonal, une fois par année, le premier jeudi de novembre. Et puis après, c'est après à chaque, on va dire, commandant ou responsable communication des services défense incendie dans leur région de véhiculer ce message, de faire passer les messages dans le cadre des soirées avec les entreprises et ce genre de manifestations pour essayer vraiment de recruter un maximum de monde en journée. Et aujourd'hui, les effectifs de nuit et week-end sont suffisants. Par contre, de jour, c'est vrai que ça devient un tout petit peu limite.
Le recrutement passe également par l'image du sapeur-pompier, qui ne se limite plus à celle d'un homme musclé. Maxime Franqui, inspecteur cantonal de défense incendie et secours Neuchâtel.
Les femmes sont de plus en plus concernées par la fonction. On voit qu'il y a une progression de femmes sapeurs-pompiers qui est quand même, on est dans les 10%, maintenant 10 à 12% de femmes sapeurs-pompiers. C'est ouvert, bien évidemment. La femme, comme l'homme, chacun a des compétences. J'ai la chance de travailler avec des sapeuses-pompiers, si on peut dire comme ça. Elle apporte des connaissances, des compétences qui sont juste parfaites, qui sont c'est vraiment un binôme, un homme et puis une femme, c'est un binôme d'intervention qui est magnifique. Donc les portes sont ouvertes aussi aux femmes, bien évidemment.
La journée de recrutement est fixée cette année au 3 novembre. Toutes les informations se trouvent sur le site internet de 118 Info. Un sujet signé Valérie Blom. La Poste éteindra à partir du 1er septembre une soixantaine de grosses enseignes lumineuses à 20h au lieu de 22h. Le géant jaune veut ainsi lutter contre la pollution lumineuse. L'illumination excessive de bâtiments et de vitrines ainsi que les enseignes publicitaires trop vives éclaircissent le ciel nocturne, ce qui perturbe le sommeil des citadins et le rythme de vie des animaux, a écrit aujourd'hui La Poste dans un communiqué. Ces panneaux publicitaires attirent de nombreux insectes qui peuvent perdre leurs repères ou mourir d'épuisement.
L'énergie solaire a besoin de l'éolien.
C'est sous ce slogan que se tient aujourd'hui à Berne le Congrès national de l'énergie éolienne. Il coïncide avec une étude publiée hier par l'Office fédéral de l'énergie qui revoit fortement à la hausse le potentiel de l'apport énergétique du vent en hiver. Directeur de Suisseol, l'intervenant Lionel Perret explique que l'énergie éolienne est déjà concurrentielle avec d'autres énergies.
Dès que la situation est un peu plus tendue sur le front de l'énergie, l'éolien est concurrentiel. Aujourd'hui, le prix de revient de l'éolien, qui est entre 10 et 15 centimes, il est très inférieur au prix de marché, même au prix que les ménages paieront, ça sera communiqué aujourd'hui pour leur énergie l'année prochaine. Et on voit que ce prix qui semblait cher dans un monde où les énergies fossiles affluaient, c'est un prix qui est tout à fait raisonnable et qui est même inférieur au prix dans un monde où les énergies fossiles sont un peu plus restreintes. Donc c'est un prix qui est comparable au photovoltaïque et c'est le prix de l'énergie demain renouvelable.
Autre intervenant au Congrès national de l'énergie éolienne, Christophe Baïf, ce professeur de l'EPFL spécialisé dans l'énergie photovoltaïque, insiste sur la complémentarité du vent et du soleil en Suisse.
Le vent produit plus d'électricité en hiver qu'en été. Donc de ce point de vue-là, le vent est absolument idéal. Maintenant, le photovoltaïque produit un peu en hiver. Il produit d'autant mieux qu'on est en haute altitude, en dessous de la couche de brouillard, voire même qu'on va dans des systèmes alpins avec des modules qui vont bénéficier de la réflexion de la neige à l'avant et à l'arrière. Et les barrages, pour une partie, ont l'avantage de pouvoir être bien sûr vidés en hiver, mais on a quand même une capacité malgré tout limitée de nos barrages.
C'était un sujet réalisé par notre correspondant à Berne, Frédéric Nejad Toulami. La mort hier soir à 91 ans de Mikhail Gorbatchev, dernier dirigeant de l'URSS, a suscité de vibrants hommages partout en Occident. Son rôle crucial pour mettre fin à la guerre froide et son combat pour la paix ont été salués, des États-Unis à la Suisse, en passant par l'Italie, l'Allemagne ou encore la Chine. Prix Nobel de la paix en 1990 pour son rôle dans la fin de la confrontation Est-Ouest, Mikhail Gorbatchev a passé les 20 dernières années en retrait de la politique, tout en faisant régulièrement entendre sa voix, inquiet des nouvelles tensions avec Washington.
Des documents saisis dans la résidence de Donald Trump ont été probablement cachés pour faire obstruction à l'enquête contre lui.
C'est ce qu'indique un document du ministère de la Justice publié hier dans la soirée. Cet acte de procédure explique de la manière la plus détaillée à ce jour les motifs qui ont conduit la police fédérale américaine, le FBI, à perquisitionner le 8 août dernier la résidence de l'ex-président pour y récupérer des documents extrêmement confidentiels qu'il n'avait pas rendus après avoir quitté la Maison-Blanche malgré de multiples demandes. Le républicain, qui flirte avec l'idée d'une candidature à l'élection présidentielle de 2024, dénonce une chasse aux sorcières menée contre lui par l'administration de son successeur Joe Biden et estime que la justice n'aurait jamais dû autoriser cette entrée par effraction chez lui. On passe au sport. En tennis, Belinda Bencic est la seule Helvète à avoir franchi le cap du premier tour de l'US Open. La Saint-Galloise a fini par venir à bout hier de l'Allemande Andrea Petkovic, qui disputait le dernier match de sa carrière. Malmenée par son adversaire, la championne olympique l'a emportée en 3-7, 6-2, 4-6, 6-4. Dans le tableau masculin, Marc-Andrea Hüsler n'a en revanche pas été capable de créer l'exploit contre le Canadien Denis Shapovalov. Le Zurichois a rendu les armes au terme d'un combat qui aurait duré près de 3 heures. Il s'est incliné 2-6, 6-4, 6-4, 3-6, 6-1 devant la tête de série numéro 19 du tournoi. Écoutez la réaction de Marc-Andrea Hüsler.
À la fin, c'était un peu dommage. Je dirais que c'était un bon match de mon parti. J'ai eu des chances pour lui battre aujourd'hui, c'était clair. Mais à cause de ça, ça fait aussi un peu mal maintenant de le perdre en 5-7. Mais je pense que les deux premiers sets, je dois gagner. Deuxième, j'ai perdu. Lui, il a trouvé son rythme, il a commencé à vraiment jouer très très bien. Mais aussi là, j'ai trouvé une solution que pour prendre le momentum un peu. Et à la fin, ouais, c'était dommage que le cinquième set était clair comme ça, parce que je ne me sentais pas comme ça sur le terrain. J'ai senti que, en fait, peut-être moi je suis un peu plus fort, mais ouais, c'est le tennis, c'est quelquefois comme ça. Et je me réjouis de le rejouer, en fait, parce que je pense que j'ai des bonnes chances pour lui battre.
Seule Suissesse qualifiée pour le deuxième tour de l'US Open, Belinda Bencic croisera le fer à ce stade de la compétition avec la Roumaine Sorea Cistera.
Hippisme à présent, et Kissima aura dû attendre 3 ans pour retrouver sa place dans le calendrier.
Annulé en 2020 et en 2021 à cause de la crise sanitaire, le concours dédié à toutes les disciplines équestres sera de retour entre demain et dimanche à Lausanne. Près de 150 chevaux sont attendus durant ces 4 jours de compétition. Cette année, plusieurs d'entre eux prendront part à la Coupe européenne de concours complet individuel et par équipe. De quoi attirer les cavaliers de tout le vieux continent. Mais au-delà de sa dimension internationale, l'événement a surtout pour ambition de promouvoir l'hippisme de manière générale, pas seulement à travers le saut d'obstacles. Les explications de Marc-Henri Clavel, président du comité d'organisation d'Equissima.
C'est pour ça qu'on a le concours complet et l'attelage qui sont des disciplines entre guillemets confidentielles, alors qu'on a des super cavaliers. Quand on a la voltige aussi, on avait des équipes de voltige qui sont championnes du monde qui venaient ici, mais qui ne sont pas connues. Et le fait de mettre ces 4 ou 5 disciplines ensemble, ça fait déjà une synergie. Et deuxièmement, on arrive à montrer au public des choses totalement différentes. Puis un des buts aussi qui est sympa, c'est qu'on s'aperçoit que le gars qui est meneur d'un attelage, il vient voir le cross le jour avant ou vice versa. Donc on a l'occasion de mettre aussi tout le monde, il y a des gens qui découvrent cette discipline.
Marc-Henri Clavel au micro de Julien Traxel. La 24e édition d'Equissima est donc prévue entre demain et dimanche au chalet à Gobet sur les Hauts de Lausanne.
L'actu en continu sur radiochablais.ca.